L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa.
Bienvenue dans cette nouvelle édition de L'un dans l'autre, le magazine d'info locale de Radio B. Bonjour Perrine.
Bonjour Elsa, bonjour à toutes et à tous.
Ça veut dire quoi le numérique aujourd'hui ? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux, les écrans, Internet, l'intelligence artificielle ? Et quelles en sont les pratiques actuelles ? Comment bien savoir l'utiliser, ce numérique qui s'est invité dans beaucoup de champs de nos vies et qui évolue très vite ? Ce sont des questions qui se sont posées lors du dernier NEC, l'événement numérique en commun qui s'est déroulé à Bourg-en-Bresse, à la DEA la semaine dernière. Cet événement a pour ambition de permettre de construire un numérique d'intérêt général, ouvert, inclusif, accessible, souverain et éthique. Des élus, des médiateurs numériques, des animateurs, des chercheurs ont, lors de conférences ou ateliers, échangé pour interroger notre capacité à garder des pratiques numériques bénéfiques et durables. Mais alors, comment transmettre une culture numérique à l'heure où notamment l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux redessinent nos usages, nos repères collectifs et nos interactions ? On en parle avec nos deux invités, Jean Pouilly, auteur et conférencier, et Pauline Reboul, chercheuse, tous deux présents lors du numérique en commun à Bourg-en-Bresse.
On les retrouve tout de suite après les brèves.
L'un dans l'autre, les brèves.
Passe Région Senior, des avantages gratuits pour les 65 ans et plus.
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance le Passe Région Senior, une carte gratuite destinée aux plus de 65 ans pour faciliter l'accès à la culture, au tourisme, aux loisirs, à la restauration et au bien-être.
Plus de 1000 offres partenaires sont accessibles, ainsi qu'une cagnotte de 15 euros offerte par la région. 10 euros pour l'achat de livres et 5 euros pour visiter un site touristique emblématique.
Le dispositif vise à encourager le bien vieillir en proposant des réductions dans les commerces, les activités sportives, les événements culturels ou les déplacements en région. L'inscription se fait en quelques minutes sur le site ou l'application Passe avec deux S apostrophe, région senior au pluriel, avant de recevoir la carte directement à domicile.
Louis-Xavier Thiraud, nommé nouveau préfet de l'Ain.
Le Conseil des ministres a nommé mardi 2 décembre Louis-Xavier Thiraud, préfet de l'Ain. Âgé de 46 ans et diplômé de l'ENA, il succède à Chantal Mauché en poste depuis avril 2023 et appelé à devenir préfète de l'Hérault. Ancien directeur adjoint de cabinet de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, Louis-Xavier Thiraud a également été préfet délégué à la Défense et à la Sécurité dans les Hauts-de-France. Il a auparavant travaillé comme conseiller culte et immigration entre 2020 et 2022, notamment sur la loi contre le séparatisme. Cette nomination marque un changement de gouvernance dans le département, dans un contexte où les priorités de l'État portent notamment sur la sécurité, la cohésion territoriale et la communication institutionnelle.
Changement de plan pour le projet 2PR2.
Les juges du tribunal administratif de Lyon ont annulé deux documents d'urbanisme liés au projet d'implantation de deux réacteurs EPR sur la commune de Loyette. Ces documents prévoyaient d'ouvrir à l'urbanisation un site de 150 hectares en bord du Rhône via une modification du schéma de cohérence territoriale et une révision du plan local d'urbanisme. Cette décision fait suite à un recours déposé par plusieurs habitants et par l'association Sortir du nucléaire. Ils dénonçaient un manque d'information et de concertation alors que les décisions avaient été prises avant même la fin du débat public. Le tribunal souligne aussi une prise en compte insuffisante des enjeux environnementaux sur un secteur situé à seulement 100 mètres d'une zone Natura 2000.
L'un dans l'autre, l'interview.
L'intelligence artificielle, tout le monde en parle aujourd'hui. On l'utilise parfois, ou de temps en temps, sur son téléphone, même sans le savoir, et parfois en catimini à son travail. Mais est-ce qu'on a eu le temps d'apprendre correctement son usage ? Transmettre et éduquer à l'heure de ChatGPT, c'est le titre du livre de Jean Pouilly. Il a participé à une conférence du NEC, Numérique en commun, qui a eu lieu le 10 décembre dernier à Bourg-en-Bresse. Il se définit comme un anthropologue du numérique et avec lui, on évoque évidemment l'IA. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler de ChatGPT et des IA génératives, donc dans le paysage éducatif. Pour vous, c'est quoi ChatGPT ? C'est une révolution ? C'est une évolution ? C'est une simple étape de transformation numérique ?
Disons que moi, j'ai vécu l'arrivée de l'Internet et je me suis passionné pour ça. Du coup, on pourrait dire que c'est une évolution, et c'en est une, sauf qu'il y a une rupture. Il y a une rupture parce que c'est une nouvelle étape qui est permise notamment par toutes les étapes d'avant, c'est-à-dire les smartphones pour collecter les données, l'économie de l'attention, parce que sans données, on ne peut pas faire de l'intelligence artificielle. Donc c'est une nouvelle étape, mais c'est une rupture parce qu'elle vient, contrairement à Internet, qui est un nouvel outil d'information. D'ailleurs, moi, quand j'ai commencé, on appelait ça les nouvelles technologies de l'information, de la communication. L'IA, intelligence artificielle, même si le mot est contesté, parce que l'intelligence dans le sens français, ce n'est pas l'intelligence, la donnée, le renseignement dans le sens anglo-saxon, mais n'empêche que ça vient concurrencer justement l'anthropologie, qui on est, ce qu'on fait, puisque ça vient imiter le langage, ça vient nous remplacer, par exemple, sur des prises de décision. Donc ça touche à la fois, moi je dis souvent, le relationnel et le décisionnel, qui sont deux grandes dimensions humaines. Et du coup, je trouve que c'est une rupture en ce sens plus anthropologique que technique, même si, bien sûr, il y a des évolutions, par exemple, les réseaux de neurones, il y a eu des avancées technologiques majeures, et il y en aura d'autres, mais au niveau anthropologique, ça va beaucoup plus loin qu'Internet, à mon sens.
Est-ce que vous pourriez nous évoquer la métaphore prothèse-orthèse ?
Oui, alors moi je prends cette métaphore parce que je trouve que, alors c'est dans le domaine médical, mais si on la transpose dans le niveau cognitif, orthèse, ça serait augmenté, et je trouve que c'est des technologies qui nous augmentent. C'est la philosophie transhumaniste, hein, c'est-à-dire augmenter les capacités humaines. Mais ça peut aller jusqu'au remplacement, et là c'est la prothèse. Du coup, moi j'ai un peu une vision qui est la suivante. D'abord, comment on choisit ou pas nos dépendances, nos remplacements, nos augmentations, ça c'est la première question, c'est la question de la liberté, de l'émancipation. Moi c'est celle qui m'intéresse, parce qu'après tout j'ai pas de conseils à donner, est-ce que vous voulez vous faire augmenter, vous remplacer ou pas du tout. La deuxième question, c'est que quand on est déjà bien construit, notamment intellectuellement, je pense que ces outils peuvent être des outils d'augmentation utiles, parce qu'ils viennent étayer la réflexion, ils viennent la pousser plus loin. Si vous connaissez par exemple très bien le journalisme, vous allez poser des questions à ChatGPT en connaissant très bien le journalisme, donc vous allez avoir un esprit critique, ça va vous donner des nouvelles informations, ça va vous augmenter. Si vous y connaissez rien, ça risque d'être une prothèse et d'arriver sur un terrain un peu glissant où vous ferez avoir par des mauvaises réponses, des hallucinations, et vous allez prendre pour argent comptant ce qu'on vous donne. Alors ça va aussi vous apprendre des choses. Et donc voilà, je pense que cette question-là, elle est à prendre pour tout le monde, à se dire à chaque fois, qu'est-ce que je fais ? Je m'augmente, je me remplace, et de choisir en conscience. Moi, j'ai choisi, par exemple, que Waze allait remplacer mon sens de l'orientation. Bon, c'est peut-être dommage, mais j'ai choisi librement. Avec les IA génératives, je les utilise de façon précautionneuse, pour aussi garder le plaisir d'écrire sur une page blanche, de réfléchir à partir de ce que j'ai dans ma tête et pas tout le temps sur des savoirs externalisés. Mais c'est un choix personnel et moi j'invite chacun à être formé pour pouvoir faire ce choix.
Ça pose les questions en fait de l'apprentissage en fait.
Oui, voilà, je pense qu'on a des nouveaux apprentissages à avoir. Moi, mon combat, c'est pas simplement des apprentissages techniques ou opératoires, manipulatoires, en disant comment on fait un prompt, mais c'est à la fois comprendre ce que c'est techniquement, démystifier cette boîte noire qu'est l'IA pour essayer de comprendre les mécanismes technologiques qui sous-tendent tout ça. Mais c'est aussi comprendre ce que ça nous fait, qu'est-ce que ça nous fait à nous les humains et qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Est-ce qu'on veut... par exemple, il y a un champ, moi, qui me préoccupe, c'est les impacts cognitifs. Voilà. On connaît depuis 2011 l'effet Google, une sorte d'amnésie numérique où on retient le chemin mais plus l'information. Aujourd'hui, le MIT, en 2025, a montré qu'il y avait ce qu'on appelle un délestage cognitif sur plusieurs cohortes d'étudiants. C'est encore assez méconnu, mais voilà, est-ce qu'on ne risque pas de créer ce qu'on appelle des dettes cognitives, c'est-à-dire l'écart entre, ce dont on a besoin pour réfléchir et ce que nous apporte la technologie. Et à un moment donné, on risque de devenir totalement dépendant de ces outils au niveau cognitif, avec tous les risques associés de dépendance. C'est-à-dire que si je ne l'ai pas, je ne peux plus réfléchir. Et puis aussi de manipulation, parce qu'après tout, qui programme ces IA ? Aujourd'hui, c'est quand même massivement des sociétés technologiques privées qui viennent d'univers culturels qui sont différents d'une autre, qui digèrent 80% de contenu anglo-saxon, par exemple, pour les IA qu'on utilise tous les jours. Alors bon, je sais qu'il y a des IA françaises qui émergent, mais voilà, ça pose des questions qui ne sont pas neutres et sur lesquelles il va falloir se positionner.
Et justement, en question de posture, je voulais vous poser la question des enseignants face aux élèves et aux étudiants qui utilisent notamment beaucoup ChatGPT. Quelle posture ils peuvent avoir, ces professeurs? Des guides, des modérateurs, des experts en prompt?
Belle question. Aujourd'hui, peut-être déjà, il y a un peu parfois un repli, parce que en fait, on ne sait pas ce que c'est. Du coup, il y a un peu les anti et les pros, mais il y a beaucoup d'anti, parce que en fait, quand on ne connaît pas une technologie, qu'on se sent menacé justement d'être remplacé. Et du coup, vous avez par exemple les enseignants qui disent « moi, je fais tout faire en classe parce que je veux être sûr que voilà, ça ne sera pas ChatGPT qui le fait à l'extérieur ». Bon, on ne peut pas en rester là. À un moment donné, l'eau s'infiltre partout. Vous ne pouvez pas faire des barrages comme ça. Donc, à un moment donné, il faut prendre le sujet à bras-le-corps. Moi, je pense que je dis souvent que ce n'est pas, c'est plus une révolution, c'est une révélation. C'est-à-dire que ça va révéler qui on est vraiment. Donc, qui est un enseignant? Qu'est-ce que c'est qu'un enseignant? Par exemple, on pourrait se dire c'est quelqu'un qui crée une relation empathique, qui soutient, qui encadre, qui recadre, qui stimule, qui encourage. La machine, elle peut le faire, mais peut-être pas, elle n'est pas redevable. Il n'y a pas ce qu'on appelait le don contre don de Marcel Mauss qui crée la relation humaine. Et ça, on a tous des souvenirs d'enseignants extraordinaires ou au contraire des enseignants qui nous ont humiliés. Et pourquoi ça fait ça? Parce que c'est des humains comme nous. Donc du coup, peut-être se repositionner là-dessus. Et puis l'enseignant, il a une expertise. Une expertise, c'est une somme de choses qu'on a faites, d'erreurs qu'on a surmontées. Et ça, on les délègue aux machines, mais les enseignants l'ont. Un expert en maths, en histoire géo. Et donc ça, on attend une expertise. On attend aussi un réseau, une mise en réseau avec d'autres êtres humains. On attend peut-être aussi des dispositifs pédagogiques différents qui seront plus magistraux. Parce qu'effectivement, maintenant qu'on a ces précepteurs numériques qui peuvent faire du sur-mesure, la concurrence va être rude. Donc, il faut faire autre chose. Moi, je dirais que les enseignants, peut-être, c'est juste une piste. Je n'ai pas de réponse toute faite. Ça serait de comprendre ce que c'est pour se dire, moi humain, moi enseignant, quel rôle complémentaire je pourrais avoir par rapport à ces précepteurs numériques qui, de toute façon, seront utilisés, que je le veuille ou non, pour construire un rôle plus subtil. Michel Serres nous prophétisait déjà ça en disant la société pédagogique, elle est déjà là. Donc, comment je vais faire? Je ne serai plus un puits de savoir, c'est fini. La légitimité du puits de savoir, c'est fini. Donc, comment je me positionne pour créer autre chose? Et je pense que c'est un chantier qui peut être passionnant. Et en tout cas, il y aura une réponse parce que on est des êtres humains. On a besoin d'autres êtres humains pour nous apprendre. C'est une fonction fondamentale dans l'anthropologie de transmettre. L'humanité s'est reproduite par transmission de savoir. Donc, qu'il y ait des machines ou pas, il y aura toujours des humains. Il faut redéfinir ce rôle. Et moi, je trouve que c'est un chantier passionnant.
Et redéfinir, du coup, le rôle de l'humain, ou en tout cas de communiquer entre humains, est-ce que ça suppose des pauses numériques, des pauses ChatGPT? En tout cas, nous, dans notre sujet qui nous concerne, l'information, la désinformation, on a beaucoup, 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 beaucoup plus de gens maintenant qui disent « je fais des pauses face à l'infobésité, j'ai trop de notifications, j'ai trop de sollicitations numériques ». ChatGPT, ça peut aussi être un peu addictif. Est-ce que les pauses, il faut s'en donner? Comment on gère le rythme?
C'est marrant, je pense que c'est une compétence clé dont vous parlez, qui serait de faire avec ou sans. Voilà. Et la déconnexion, c'est un vrai chantier de différentes associations, par exemple comme Lève les yeux, qui est à Marseille, qui axe son travail d'éducation média sur la déconnexion, non pas pour rejeter la technologie. Et moi, dans les smartphone shows, ces ateliers que j'anime, je vois bien que moi, j'aborde la technologie sous l'angle pharmacologique. C'est Bernard Stiegler qui nous en parle, Jacques Ellul aussi. Et qui dit, en fait, il y a un poison, un antidote. Et dans les antidotes, souvent, il y a, oui, faire des pauses, éloigner l'écran de moi, le couper le week-end, enlever des notifications, en fait, pour ne pas subir ce qui a été programmé dans la technologie pour nous, c'est-à-dire une économie de l'attention pour qu'on l'utilise au maximum. Donc, en fait, c'est aussi ça, reprendre sa liberté. C'est savoir faire des pauses, savoir détendre des connexions, savoir utiliser d'autres médias pour aussi avoir, moi, ce que j'appelle une hygiène cognitive, parce que quand on est à 5, 6, 7 heures d'écran par jour, ça a des impacts et qui ne sont pas tous bons. Voilà, et quand on se remet à lire, par exemple, des livres ou qu'on se remet à penser, à s'ennuyer, à méditer, y a d'autres choses, d'autres ressources qui sont à notre disposition. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que on en prenne conscience et qu'on remette l'outil à sa place, non pas pour le rejeter, mais pour pas qu'il nous submerge, pour pas que ça soit, comme je disais, cet écran total avec un risque totalitaire, en fait, parce qu'il y a aussi des volontés de pouvoir derrière, d'influence, de manipulation, de consommation. Il y a plein de choses, et donc dont il faut avoir conscience. Donc, il y a beaucoup de sujets quand même.
Ouais. Et justement, en parlant un peu des risques, comment éviter peut-être que l'IA creuse des inégalités? Vous parliez tout à l'heure de fractures sociales, générationnelles. Comment on peut s'en préserver? Ou est-ce que c'est inévitable?
Moi, je vais commencer par dire que c'est inévitable. Ça s'est toujours fait. Il y a toujours eu des fractures sociales. Elles se reproduisent et se déclinent. Donc là, il y en aura une nouvelle. Parce que ceux qui ont un capital socioculturel fort, eh ben, ils vont plutôt aller vers l'augmentation. Les autres, plutôt vers le remplacement. Mais ce n'est pas inéluctable. Ça veut dire qu'il faut un effort d'éducation populaire et d'éducation aux médias très fort. Impliquer les enseignants. La coéducation avec les parents. Il faut former les parents. Moi, c'est pour ça que j'ai monté des ateliers parents-enfants. Donc, ce n'est pas inéluctable, mais c'est clair qu'il y aura, il y aura une fracture sociale sur la question de l'IA. Et puis, générationnelle, parce que quand on est né avec et qu'on l'utilise tout de suite, eh ben, en fait, on n'a plus du tout le même référentiel. Moi, je vais vous prendre un exemple. Dans les super-pouvoirs que je fais explorer aux participants, il y a hyper rapide et accessible tout le temps. Alors les parents disent, bah oui, c'est une augmentation. Mais les enfants, ils disent, mais non, mais je ne comprends pas pourquoi. Oui, c'est hyper rapide. Non, ce n'est pas rapide, c'est comme ça. Mais ils ne comparent pas à avant. Accessible à 24, je dis, ils ne savent pas que la poste, elle ferme à 16h. Donc pour eux, que ça soit accessible tout le temps, ces technologies, c'est normal. Ce n'est pas une augmentation. Donc vous voyez, leur référentiel, il va être différent d'une autre. Et je pense que nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est sur notre référentiel à nous, selon l'âge qu'on a. Du coup, il va falloir dialoguer. Moi, je prône le dialogue comme un moyen de se comprendre, un moyen de s'ajuster. Pour à la fois comprendre les innovations positives que les plus jeunes vont avoir sans tabou, sans barrière, et qui comprennent aussi peut-être les choses, les points critiques que nous, on va mettre en valeur parce qu'on a eu l'expérience d'avant le numérique. Il ne faut pas oublier qu'on sera peut-être la dernière génération à avoir vécu les deux. Moi, je serai peut-être la dernière génération à avoir vécu les deux, c'est-à-dire sans rien du tout, et ceux qui sont nés où il y a déjà tout. Et d'autres choses qui vont arriver.
Si on se projette, à quoi pourrait ressembler l'école, l'université dans 10, 20 ans? On sait que l'IA va se transformer. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer?
Il y a plein de scénarios. Il y a des dystopies affreuses avec plus de profs, des gens lobotomisés, etc. Ça, on aime bien se faire peur. Et on a besoin de ces fictions pour se faire peur et pour passer à l'action. Donc moi, ça me dérange pas qu'il y ait des fictions anxiogènes et qu'il y ait plein de peur. C'est normal, l'être humain... face à l'innovation technologique, se projette de cette façon. Mais si ça peut être utile d'avoir ces récits, c'est intéressant. Par contre, il faut les dépasser. Et moi, je vois les choses positivement. Je vous disais que je vois plus comme une révélation, c'est-à-dire pas dans le sens religieux, dans le sens photographique. En nous concurrençant, finalement, ces dispositifs qui viennent nous concurrencer dans ce qu'on est profondément. Hein, alors, on n'est pas que des êtres intelligents, mais par rapport à l'animal, on est des êtres décisionnels, on a un libre arbitre. On est des êtres profondément relationnels et plein d'autres choses. Et ben, en venant challenger, transformer, grignoter ce qui fait le fondement humain, ben peut-être que ça va être tous, pour nous tous, parents, éducateurs, journalistes. Tiens, qu'est-ce que c'est qu'un journaliste aujourd'hui? Ouais. Et peut-être ça vous challenge vous à se dire, tiens, c'est quoi un journaliste? Est-ce que c'est juste traiter de l'information? Je crois qu'on arrive un petit peu au bout. Par contre, ce que vous faites là, aller sur le terrain, rencontrer des gens, confronter des opinions, c'était peut-être la base d'ailleurs. Peut-être des fois, ça s'est perdu en chemin. Vous voyez, ça va être une révélation pour vous parce que aujourd'hui, il y a plein de machines qui font des articles, mais c'est pas très satisfaisant. On arrive à un point de rupture avec ce qu'on appelle l'IA slope, la bouillie d'IA, c'est-à-dire que l'IA qui digère de l'IA, parce qu'à force de produire de l'IA, je discutais récemment avec une journaliste qui disait peut-être que justement maintenant, on va rechercher de nouveau du contenu fait par des humains qui vient du terrain, qui vient d'un contexte, qui vient du réel, qui vient du local, parce qu'en fait, ça, l'IA ne peut pas l'inventer. Et vous voyez, chacun, à notre place, dans notre métier, à notre âge, peut-être qu'il va y avoir ce travail de révélateur photographique ou de révélateur IA qui va, moi, en tout cas, c'est mon scénario optimiste, nous pousser à être peut-être encore plus humains face à ces machines, sans les rejeter, mais pour les mettre, encore une fois, à leur place en toute liberté et autonomie.
On remercie Jean Pouilly d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On se rend compte alors qu'il y a un rôle qui n'est pas forcément évident à tenir face au numérique, c'est celui de parents. Que faire face à ces ados devant les réseaux sociaux ou quelle éducation donner aux plus petits face aux écrans? La notion de parentalité numérique est récente et n'est pas forcément évidente. Pour essayer de l'aborder, nous avons cette fois-ci posé des questions à Pauline Reboul, chercheuse en sciences de l'information et de la communication. Elle travaille au sein de Fréquence École, une association d'éducation au numérique. Est-ce que vous pouvez nous définir la parentalité numérique ou parentalité ou numérique, c'est quoi les principaux enjeux pour les parents face à l'usage du numérique aujourd'hui ?
Alors, en fait, je pense qu'il y a deux questions dans votre question. Si on définit la notion de parentalité numérique, on est face à quelque chose d'un peu compliqué, justement, à décrire de façon précise, parce que ça renvoie à plein de choses un peu différentes. Moi, j'ai tendance à dire qu'on parle de parentalité numérique dès lors qu'on s'intéresse à ce que vivent les parents dans ce contexte de transformation numérique. Et donc, les parents en tant que parents. Je pense qu'on peut prendre plusieurs exemples, mais souvent quand on imagine ce que ça peut recouvrir la parentalité numérique, il y a des expériences quotidiennes des parents qui sont confrontés aux pratiques numériques de leurs enfants comme des pratiques culturelles. Du coup, les enfants qui ont des activités vidéoludiques, qui jouent aux jeux vidéo, qui vont sur Internet, qui regardent des dessins animés, qui ont envie du coup de produits dérivés, qui viennent de tout ça. Enfin, tout ça, ça fait partie de la culture finalement médiatique et numérique d'aujourd'hui, et ça impacte les parents parce qu'ils doivent décider si les enfants jouent à tel jeu ou pas, combien de temps, est-ce qu'on va acheter un pyjama pas de patrouille pour Noël, est-ce que... Enfin, voilà, il y a toutes ces questions-là. Puis il y a d'autres questions qui sont plus liées finalement à la socialisation et en fait les parents, la manière dont ils se positionnent les uns par rapport aux autres. Et notamment sur cette question de temps d'écran par jour, comment est-ce que finalement je me calibre, je me positionne par rapport à d'autres parents, et puis comment je réponds aux attentes de mes enfants, en fait, qui vont eux aussi se comparer, notamment le téléphone portable, par exemple. Ça, c'est un cas très typique des enfants qui vont demander un téléphone portable et des parents qui vont se retrouver coincés entre le fait que tous les autres enfants, évidemment, ont un téléphone portable, mais eux n'ont peut-être pas envie de le faire. Voilà, ça c'est un premier, enfin c'est un deuxième point. Puis il y a un autre point qui est que le numérique est aussi utilisé par les parents dans l'exercice de leur parentalité. Alors il y a deux exemples, le fait qu'on va du coup encadrer le temps d'écran avec des dispositifs numériques, du contrôle parental. Le fait que par exemple on va décider d'utiliser un service de géolocalisation quand nos enfants sortent, par exemple, ça pose des questions techniques mais aussi éthiques. Mmh. Et puis il y a tous les dispositifs pour suivre la scolarité ou finalement la formation ou les activités de leurs enfants qui sont, mises en œuvre à travers des outils numériques. Donc ça fait beaucoup de choses différentes derrière la parentalité numérique.
Et alors du coup, à Fréquence École, là où vous travaillez, est-ce que vous dégagez déjà des premières pistes pour les parents ? Comment vous parliez aussi de moments d'échange, de discussion ?
En fait, alors à Fréquence École, là, on a essayé déjà de décrire quels étaient les problèmes des parents et les besoins des parents. Et en fait, on a les parents, aujourd'hui, on rencontre un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes à la fois un peu systémiques, c'est-à-dire en fait qui sont des problèmes de société et qui les impactent, puis des problèmes très concrets au quotidien. Ils ont un problème qui est une forme de surcharge en fait cognitive liée à ces sujets-là, parce qu'en fait, ils se sentent très interpellés par les médias, par les discours publics, par les acteurs. On les interpelle beaucoup sur leurs responsabilités et donc du coup, ils se sentent une grande responsabilité à laquelle ils ne savent pas toujours répondre, avec beaucoup d'angoisse. Donc ça, c'est une première réponse qu'on essaye de construire pour les parents, c'est d'essayer d'apaiser les angoisses et puis de faire redescendre un petit peu cette surcharge et cette responsabilité. D'abord en les aidant à se rassurer sur les risques que leurs enfants courent ou pas, et puis sur le cadre qu'ils proposent et ce qu'ils arrivent à faire, en essayant de leur dire on fait comme on peut avec ce qui fait sens pour nous, ce que sont nos valeurs. Donc, voilà, on essaye du coup de se remettre à la hauteur de ce que vivent les parents pour que ce sujet-là soit appréhendable, que ça soit pas une énorme montagne.
Un petit point aussi sur les réseaux sociaux, on en entend évidemment beaucoup parler. On a vu que l'Australie a pris une décision sur l'interdiction des réseaux sociaux auprès des moins de 16 ans, en tout cas cette interdiction auprès des GAFAM. Comment on fait, parce que nous-mêmes en tant que parents, c'est pas forcément évident, comment on fait pour réguler quelque chose qu'on voudrait peut-être pour nos enfants, alors que nous-mêmes, on a appréhendé un peu ça comme ça.
On pourrait dire les choses comme ça. L'interdiction pourrait sembler être finalement une solution idéale pour résoudre la difficulté que vous venez d'évoquer. C'est pas un sujet sur lequel moi j'ai fait des travaux de recherche spécifiques, mais en tout cas on a construit un certain nombre de réflexions, on a animé un grand débat sur ce sujet-là, sur l'interdiction des réseaux sociaux aux enfants. Je pense qu'il y a plusieurs choses à dire sur cette solution. La première, c'est qu'elle est problématique du point de vue des droits des enfants et des adolescents. C'est-à-dire que, en gros, les droits des enfants leur donnent finalement la possibilité, doit garantir la possibilité de s'informer, de s'exprimer. Et en fait, en interdisant les réseaux sociaux, on interdit finalement quelque part les enfants d'avoir accès à ce type de pratiques. Clé. Donc ça, on pourrait déjà discuter de ça en se disant bah, finalement, plutôt que de faire peser la responsabilité encore une fois sur les parents et priver les enfants de quelque chose d'important, pourquoi est-ce qu'on ne focalise pas notre énergie et notre attention à réguler les plateformes ? Et je pense que ça, il y a une question vraiment importante. Alors, on a tendance à dire que c'est pas possible de réguler les plateformes, donc agissons sur les familles. Je pense que ça, c'est un deuxième point, c'est qu'il est sans doute illusoire d'imaginer qu'on va réussir à interdire les réseaux sociaux et Internet, en tout cas pour tout le monde. Et donc, on va probablement amplifier des choses qu'on observe déjà, du coup, des asymétries énormes entre les familles en fonction de celles qui arrivent finalement à proposer des alternatives, à proposer un cadre, celles qui n'y arrivent pas. Et puis aussi des risques potentiellement de fuite des enfants dans des pratiques qui sont du coup interdites et qui les privent du soutien des adultes en cas de difficulté. Donc moi, on voit beaucoup de limites en fait à cette fausse solution. Et donc après, effectivement, si ça n'est pas une bonne solution, j'ai évoqué l'idée de peut-être réguler les plateformes pour que le poids ne repose pas uniquement sur les parents. Je pense qu'il y a d'autres acteurs éducatifs qui peuvent faire un travail éducatif important auprès des enfants et qui peuvent être formés pour ça et qui peuvent du coup travailler aux côtés des parents pour responsabiliser et en tout cas sécuriser les usages des enfants. Et ensuite, alors une fois qu'on en est arrivé, qu'on a coché toutes ces cases-là, les parents, je pense que il y a un certain nombre de choses. Nous, on travaille avec une logique qui s'appelle les situations miroirs. Ce qui est intéressant, c'est d'aider les parents à faire des parallèles entre cette situation qui leur semble un peu compliquée, étrangère, et des situations dans lesquelles ils se sentent plus à l'aise, des équivalences qui du coup leur permettraient d'identifier des solutions. Je ne sais pas, sur la désinformation, comment est-ce que par ailleurs ils ont déjà discuté avec leurs enfants de la complexité d'un point de vue ou d'une rumeur, peut-être qu'ils l'ont fait dans d'autres contextes que le numérique, ça déjà ils peuvent le remobiliser. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire pour répondre à cette problématique-là.
Ce que j'entends, c'est qu'il faut peut-être réinsérer des moments de dialogue, d'échange entre les enfants et les parents. Parfois, c'est compliqué parce qu'on est beaucoup accaparé par les écrans, par le numérique. C'est ça une première piste ?
Oui, moi, je pense que c'est même potentiellement, ça pourrait être la seule, en fait. Je pense que il y a un chercheur qui s'appelle Jocelyn Lachance qui dit « le numérique fait écran ». Et je pense que c'est vraiment clé comme phrase. C'est-à-dire, en gros, on est tellement accaparé par les écrans qu'on finalement, on ne pense pas que simplement dialoguer autour des écrans permettrait de les éloigner un petit peu dans la perception que les familles peuvent en avoir au quotidien. C'est-à-dire que souvent, les familles, les parents moi, que j'ai rencontrés ont le sentiment que les écrans leur privent des liens avec leurs enfants. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou qu'ils n'ont pas de prise sur ce que leurs enfants font à travers ces écrans et peut-être du coup simplement dialoguer sur ce sujet-là, demander comment ça se passe et c'est quoi l'intérêt que ça a pour toi et qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu aimes et c'est déjà un premier pas et alors ça répond à un autre besoin qui est celui des adolescents notamment et des enfants aussi qui est finalement d'être un peu reconnus dans leurs activités numériques. Parce qu'en fait, ils sont aussi très stigmatisés. Ces activités-là sont très stigmatisées, très peu reconnues, souvent évoquées uniquement à travers le prisme des risques et des dangers, alors qu'ils retirent beaucoup de satisfaction et beaucoup de bénéfices d'un certain point de vue aussi, en termes de sociabilité. Enfin, il n'y a pas que des choses problématiques. Il y en a, mais on en parle très peu. Et donc, du coup, le fait que les parents s'intéressent à ce que vivent leurs enfants dans les mondes numériques, ça redonne de la valeur aux yeux des enfants et ça leur donne confiance et puis ça leur fait aussi comprendre qu'ils peuvent parler des choses difficiles avec leurs parents parce que le dialogue il est enclenché et qu'ils vont pouvoir être une oreille attentive s'il y a un problème, s'il y a un besoin.
On remercie Pauline Reboul pour son éclairage et si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur le site numérique-en-commun-au-pluriel.fr.
Vous écoutez L'un dans l'autre,
le mag d'info locale
sur Radio B.
L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Elsa.
Merci Perrine et merci à vous pour votre écoute.
On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle édition de votre magazine d'info locale.
D'ici là, restez bien à l'écoute des bonnes ondes de Radio B.
Et passez de bonnes fêtes de fin d'année.
L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa.